Troisième partie du procès des évadés de Moulins, évasion qui a eu lieu en février 2009, et le procès se tient aux assises de Lyon du 2 au 18 avril. C'est l'envolée qui vous fait ce récit. On a fait une première partie qui concernait le mardi 2 et le mercredi 3, une deuxième partie qui concernait le jeudi 4, et là nous en sommes donc au vendredi 5, journée de procès qui est consacrée quasiment intégralement à l'audition de deux personnes. Donc là on monte un petit peu dans la hiérarchie pénitentiaire. La veille on a entendu, c'était une journée consacrée au témoignage des matons. Là aujourd'hui c'est une journée qui est consacrée au témoignage des deux directeurs en fait. Directeur de la centrale pénitentiaire, parce que Moulins, l'évasion qui a eu lieu en février 2009 à Moulins-Yzeure, de la centrale de Moulins-Yzeure qui est située dans l'Allier. Et donc c'est à la fois un centre pénitentiaire et une centrale. Voilà. Donc il y a le directeur de la centrale et le directeur du centre pénitentiaire. Voilà. On fait un récit assez détaillé et chronologique de ce qui se passe dans la journée en commentant ce qui s'est passé. Donc le vendredi matin, comment commence cette journée ?
Eh bien ça commence dans le bordel, parce que là au moment où les accusés arrivent dans le box, eh ben, il manque Baheb, et parce que Baheb refuse de comparaître.
Baheb, le troisième co-accusé, en plus des deux évadés, Omar Top et Christophe Kider, il y a trois co-accusés qui sont avec eux dans le box, on le rappelle juste vite fait comme ça. Pour plus de détails, il faut écouter les journées précédentes. En gros, Baheb, c'est Eugène Baheb qui est dans le box et qui est accusé de complicité. Alors, préparer cette évasion. De l'évasion et de ce qui s'ensuit par la suite. Voilà.
Donc, il refuse de monter parce que ce matin, les matons l'ont sorti de force alors qu'il était encore en train de prendre une douche. Et donc, voilà, il a résisté. C'est un truc classique, hein, altercation. Et ils l'ont emmené torse nu dans le fourgon, l'empêchant même en disant s'en fout de se habiller, ils l'ont emmené comme ça. Et donc le président a dit qu'il va le faire monter de force, et il se trouve qu'en même temps, donc il y a cette première suspension de séance, il y a une alerte incendie dans l'ensemble du palais de justice, qui fait que le palais de justice est évacué, donc ça prend un certain temps, et au retour, donc une fois que l'alerte incendie est passée, et que donc la suspension est passée aussi, Baheb arrive dans le box torse nu et explique ce qu'il s'est passé. Là le président lui dit bon bah allez, maintenant on a compris, vous pouvez remettre votre t-shirt machin. Il dit ouais mais quand même j'insiste, etc. Le président dit oui j'ai entendu, je me suis fait taper, etc. Et donc il lui demande de remettre son t-shirt, ce que finit par faire Baheb.
Et que voilà. Sinon c'est outrage à la pudeur. Ouais. Ce à quoi Baheb lui répond, c'est pour que vous constatiez ce qui se passe en off, on nous traite comme des chiens.
Et donc ça commence par l'audition donc du directeur de la maison centrale, un certain monsieur Félaillon, quelque chose comme ça. Alors ce Félaillon donne un récit, il revient sur les faits hein, d'évasion, et il en donne un récit relativement objectif. Il a choisi, c'est lui qui a décidé, donc a choisi d'ouvrir les portes à Christophe et à Top, et donc de regagner le parking de la centrale, donc de regagner la liberté, hein, enfin, de pouvoir s'échapper. Et ça, rien que ça, ça lui a valu de se faire remonter les bretelles par sa hiérarchie, parce que y a quand même beaucoup plus de gens dans l'administration pénitentiaire qui préfèrent sacrifier même la vie de quelques-uns de leurs employés, mais qui n'aiment pas trop qu'une évasion réussisse. Je me rappelle par exemple du directeur de Clairvaux, je pense qu'il est cané aujourd'hui, qui s'appelait Danet, qui avait dit « moi je préfère 10 suicides à une évasion ». Il avait dit ça, et que le procureur, à l'époque d'un autre procès, avait dit « oui, mais vous avez parfaitement raison ».
On vous comprend,
il fallait être à la larme.
Parce que l'évasion constitue quand même pour l'administration pénitentiaire l'incarnation pure de ce que les prisonniers ne peuvent pas et ne doivent pas faire. Le but de l'administration pénitentiaire, c'est quand même de maintenir des gens à l'intérieur des murs. Quand les gens se font la belle...
Problème. Il y a deux choses qu'ils n'aiment pas, c'est les mutineries et les évasions. C'est-à-dire les mouvements de révolte collective et l'acte de révolte individuelle qui est l'évasion. Lui, il dit qu'il a subi aucune violence physique, hein, mais qu'il ne dort plus, qu'il est angoissé et qu'il a peur.
Fameux traumatisme dont les matons étaient aussi, ou certains matons disaient la veille être victimes. C'est-à-dire, pas de violence physique, à aucun moment de l'évasion, mais
peur,
un traumatisme.
Une peur qui est, voilà, un traumatisme, c'est-à-dire quelque chose qui vient a posteriori. Sur le moment, ça va, mais c'est ensuite, visiblement... Ils ont peur. Mais donc, c'est le nom. Enfin bon, on va pas faire une analyse de la peur post-machin, traumatique ou je sais pas trop quoi. Mais c'est un sentiment qui doit être partagé par pas mal de gens pour des raisons bien plus simples que celle-là, ne serait-ce que, je sais pas, perdre son boulot par exemple, dans des conditions de vie comme elles sont aujourd'hui. J'imagine que ça doit être de nature aussi à créer des traumatismes, machin.
Il
y a tellement de gens qui prennent des médicaments dans ce pays. On peut imaginer que le traumatisme, c'est quelque chose de largement répandu.
Et Fénaillon, lui, son traumatisme, c'est surtout qu'il est descendu, quand il a appris ce qui se passait dans sa prison, dans le PCI, qui est le poste de contrôle du parloir, en fait. Une petite cabine à l'intérieur du parloir de laquelle les matons font leur raclette, d'ailleurs, et puis surveillent aussi les parloirs. Et du coup, il a vu ses employés pris en otage. Et donc, ils racontent même comment ils voient leur visage apeuré, forcément, et qu'ils pensent que ces gens-là ont femmes et enfants, mais que quand même, ils ne les regardent pas trop, justement, parce que du coup, ils n'y arrivent pas. Ils préfèrent détourner le regard. Et justement, il explique que c'est à partir du moment où il voit ça qu'il prend la décision d'ouvrir les portes, parce qu'il veut sauver la vie des otages. Et le rapport de l'inspection dira de lui, justement, qu'il aurait... pas dû descendre dans ce PCI, on suppose parce que du coup d'être en face de la merde, il a pris la décision d'ouvrir les portes et que sinon d'en haut de son bureau, il aurait pu plus facilement dire on s'en fout, on y va, on les garde là, et qu'il aurait pas dû non plus prendre la décision d'ouvrir les portes et de fermer les miradors comme les évadés lui demandent, enfin les preneurs d'otages à ce moment-là lui demandent de fermer les miradors pour leur sortie et il accepte tout. Toutes leurs conditions.
Alors maintenant, il ne travaille plus en détention. Il est devenu DRH à la direction interrégionale. Et en fait, son rêve, ça serait de rentrer dans l'éducation nationale ou dans une structure hospitalière. On vient lui face, hein, il devrait le faire. Hein. Il serait effectivement plus honorable comme travail que son boulot, qui n'est pas un boulot. Et alors, ce qu'il dit, c'est qu'il avait surtout peur de Top. Parce que lui, il l'avait déjà vu au quartier disciplinaire, où lui-même l'avait placé, énervé à mon égard. Je me suis dit qu'il allait égorger un surveillant, et il reste donc effectivement toujours avec cette question, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, c'est le tour de rien. Le parquet, hein, le grand bicéphale du parquet, lui demande quelle était la vie dans cette centrale, les activités, les parloirs, enfin dans cette prison où l'on trouve des longues peines. Lui, il répond qu'il y avait tout. Sport, enseignement, activités, socioculturelles, terrain de foot, cours de tennis... Et il y avait même des travaux pour construire des salons familiaux dans les parloirs. Lui, il dit tout fier, il dit, moi, mon dada, c'est l'insertion. Voilà. Donc il m'a toujours tout mis en œuvre dans ce but-là, et à tout niveau, que ce soit au niveau du boulot ou des contacts familiaux qui sont très importants, bien sûr. Et il dit, les salons, c'est pas des UVF, mais c'est quand même des petites chambres.
Et en fait, c'est que... À la centrale de Moulins, il n'y a pas d'UVF, donc des unités de vie familiale qui permettent aux familles de passer plus de temps ensemble, voilà, qui constituent à l'intérieur des détentions très souvent une carotte, hein, qu'on peut agiter pour que les prisonniers se tiennent bien dans l'attente d'avoir cet UVF qui est lui-même présenté comme une avancée considérable dans le cadre du droit des prisonniers et de leurs conditions de détention. Voilà. Et globalement, ça correspond... à la manière dont se présente ce Fénaillon. C'est-à-dire qu'il n'a de cesse de se faire passer pour un humaniste et un grand réformateur au moins dans la pensée et dans la volonté, puisque c'est pas dans les faits, ça, sinon ça se saurait, des conditions carcérales. Quoi. Alors, c'est juste pour voilà, décrire un petit peu le personnage.
Mais c'est ça, et le sens de la question du parquet sur décrivez-nous le quotidien carcéral, c'est de faire dire à Fénaillon que la prison c'est vraiment pas horrible, qu'ils ont plein d'activités, etc. Et que du coup, tout le blabla sur l'évasion et le fait que Christophe et Omar veulent s'évader à ce moment-là n'est pas valable parce qu'en fait leurs conditions de détention sont tout à fait acceptables.
Voilà. On rappelle que les conditions de détention de gens qui, en l'occurrence, là, dans cette histoire, sont condamnés à des très lourdes peines. Voilà, c'est quand même des longues peines, en l'occurrence. Et, c'est le cas de tous les prisonniers qui sont enfermés, bien sûr, mais eux, en l'occurrence, ne sont pas libérables avant des dizaines d'années de prison.
C'est peut-être bien aussi de rappeler, là, ça a été fait d'ailleurs pendant ce procès à ce moment-là, je ne sais plus si c'est Top ou si c'est Christophe qui dit ça, mais simplement, effectivement, il n'y a pas d'UVF et il y a une tolérance des matons pour amener une tente. Et des serviettes pour dans les box
pour
créer un peu d'intimité
des draps, etc.
Donc on en est là quoi. Enfin je veux dire c'est très clair. Et du coup là-dessus voilà. Enfin le proc dit avec le sourire c'est des espaces de liberté. Voilà. Et Top l'interrompt et dit mais il n'y a pas d'UVF en centrale. Ça fait 10 ans que je les cherche. J'ai fait je sais pas combien de centrales. Et il s'énerve. Et le président et le proc lui demandent de se taire. Et Ripper intervient, donc Ripper, l'avocat de Christophe Kider, intervient pour rappeler la différence entre Top et Ladj et le procureur. C'est que Top et Ladj, lui, il connaît la prison.
Ouais, alors que l'autre, il n'y a jamais, il ne sait même pas ce que c'est. Et continue à parler le proc de bulle d'oxygène, du parloir, avec un espèce de sourire hyper content. Et Top lui répond encore, dans vos parloirs, on est par terre comme des chiens, et c'est ça que vous appelez une bulle d'oxygène. Et il a rappelé aussi que même pour aller visiter, même pour voir sa mère, il est obligé de se mettre tout nu pour subir une fouille après le parloir, et quelques fois avant, si les surveillants décident que c'est comme ça. Alors le dialogue pour lui, il rappelle quand même que la famille, c'est sacré. Hein, et que c'est vrai qu'il ne pensait pas forcément à une évasion du parloir, mais que quand même l'objectif principal pour les parloirs à Moulins, c'était de les sécuriser davantage parce qu'il savait qu'il y avait des failles, puisque les parloirs ne sont qu'à 15 ou 20 mètres de la sortie. Ce sont toutes prisons à sa faille, hein, tout endroit à sa faille. À Fresnes, c'était plus tard, hein, puisque c'est de là d'où il partait Ferrara, c'est l'endroit qui était le plus proche de la rue. Et bien, Moulins, c'était les parloirs. C'est ce qu'il y a de plus proche de la sortie.
Mais l'objectif, encore une fois, de rappeler cette histoire de parloir, c'est d'aller dans le sens de ce qu'on dit, leur vision des parloirs, hein, d'aller dans le sens de ce qu'on dit les matons la veille, encore une fois, de dire que les parloirs constituent quand même l'espace de liberté de la prison, c'est ça ce qu'ils disent, puisque c'est là où tu peux discuter et rencontrer l'extérieur, et que donc une évasion de cet endroit-là reste assez inimaginable, voire ignoble. Voilà. Et ça continue en fait, c'est quelque chose qui continue à courir et qui court tout le long du procès.
Et le bras, l'avocat donc de Sylvie, la compagne de Christophe à ce moment-là, demande à Fénaillon de décrire un peu plus les parloirs, leur taille, de quoi ils sont équipés, etc. Et Top immédiatement, lui, il interrompt, de toute façon Top il parle comme ça, hein. il attend pas, il a bien raison, on lui donne la parole, et quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et là, il dit, ce sont des chiottes d'un mètre carré et demi. Et Fénaillon dit, non, c'est pas vrai, ils font 6 mètres carrés. Alors ça, c'est vraiment le mensonge de chez mensonge. Et Top a bien fait de lui rétorquer que même les cellules font à peine 9 mètres carrés. On voit mal comment effectivement les parloirs pourraient faire plus que 2 mètres carrés et demi, on va dire. Hein, pour, voilà. Et puis Top lui dit aussi qu'il le fait bien marrer avec son histoire globale, que ce soit pour les parloirs ou pour les activités de réinsertion, car réinsertion, ça n'existe pas. Et puis là, il y a Delphine Boisel,
la deuxième avocate de Christophe,
ouais, qui lui dit que... Donc, rappelons que vous aviez le projet d'abord, hein, c'est votre véritable projet, c'était celui de sécuriser Moulins, alors que Moulins est déjà perçu comme étant la prison la plus sécuritaire d'Europe. Ça va être encore sécurisé, Et elle dit, pendant ce temps-là, pourquoi on n'a pas installé du VF à moulin? Et là, le Dirlo, il répond, c'est un problème de place, d'extension. Et je ne sais pas, moi, je ne suis en place que depuis 2008. Voilà. Et Delphine, il lui rappelle quand même que, alors il y a eu des travaux après l'évasion, puisque les explosions ont détruit, enfin, etc. Et en fait, les travaux, pour des gens qui continuent à aller à Moulin comme visiteurs, dont on fait partie, eh ben, ils ont surtout constitué à multiplier les sas, les sas dans le parcours qu'on fait depuis l'extérieur jusqu'au parloir, puisque de 3 portes, on est passé maintenant à 9 portes.
Non, de 6 portes, on est passé à 9.
Voilà. Ils ont rajouté 3 portes blindées, histoire d'empêcher quelqu'un d'autre de prendre le même chemin.
Et le parloir lui-même, lui, il a été refait.
Ah, pareil, à l'identique, ça c'est Delphine qui le dit, moche, froid. Et ça, c'est Delphine qui le dit, c'est Delphine qui le lit d'après le rapport qui a été fait par l'inspection de l'administration pénitentiaire. Hein. Et ce même rapport dit aussi que les activités sont quasi inexistantes. Alors là, évidemment, le directeur dit, ouais, mais ça, c'est un rapport de gens qui ne savent pas eux-mêmes. Enfin, donc, voilà, lui dit ce que nous, on dit. C'est-à-dire, lui dit, ma direction ne sait pas de quoi elle parle parce qu'elle ne vient jamais. Et quand les prisonniers lui disent, vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que vous ne vivez pas la détention. Donc, vous ne pouvez pas non plus dire. En fait, voilà, c'est exactement un miroir, c'est rigolo, ce même jeu, sauf que, eh ben, au bout de la chaîne, effectivement, il y a les prisonniers. Et eux, ils savent, c'est ce qu'il lui dit. Le Dirlo, il dit, moi je sais parce que j'ai travaillé au quotidien, et Delphine lui rappelle que eh ben, les prisonniers, eux, ils y vivent. Et là, il ne peut plus rien dire.
Suit l'avocate de Nadia.
Ouais, qui ne parle pas beaucoup. Hein.
Qui parle pas beaucoup. Et Nadia, donc, qui est co-inculpée, comme Sylvie, d'avoir préparé et introduit. Ce qui a permis l'évasion.
C'est-à-dire le pistolet et les explosifs en plusieurs fois. Et donc, d'après ce qu'il raconte, elle aurait scotché entre les deux omoplates, d'abord un pistolet, puis ensuite des pins d'explosifs, puis ensuite des détonateurs et un tournevis. Donc, l'avocat lui dit comment ça se passe quand les familles rentrent au parloir? Est-ce que les surveillants ont le droit de palper ou quoi ou qu'est-ce?
Ça reste toujours à Félaillon. Hein,
ouais, bien sûr. Ouais. Alors Félaillon lui répond que le règlement autorise un petit tapotement. Voilà. Bon, ça fait sourire tout le monde, bien sûr. Elle dit, mais quand même, pour ma cliente, puisque tout le monde sait qu'elle sonne sous le portique, est-ce que vous lui demandez d'enlever son manteau? Puisqu'elle, quand elle a un manteau sur elle, pour voir, le directeur dit oui, normalement oui. Et dit, et si le surveillant voit une bosse dans son dos, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il lui demande, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que, alors là, le directeur dit, effectivement, s'il y a un soupçon sur quoi que ce soit, eh ben, on lui interdit l'entrée du parloir. Ça ne peut pas être autrement. Donc, moralité, elle a ce que veut faire dire l'avocate, c'est que...
Ils n'ont pas bossé ce jour.
C'est tout. Et donc Baeb à ce moment-là intervient. Parce que Baeb, il intervient comme ça aussi. Pas exactement comme Top, parce que Top, il décrit la détention. Baeb, il intervient toujours pour parler de lui. Et de façon comme ça, un petit peu curieuse, on ne comprend jamais la propos de ses interventions. Et là, il redit. Qu'il a été mis au mitard après la mort de son père, qu'il avait tenté de se suicider à deux reprises, et qu'il redit encore qu'il voit mal comment on peut parler d'humanisation de la prison.
C'est pour ça que c'est quand même une réponse à ce qui se passe à cet endroit-là.
Ouais. Ripper, lui, demande donc à ce directeur qui est très, très, visiblement très soucieux de la réinsertion par le travail, etc., quel est le salaire des prisonniers dans les maisons centrales. Et là, le Dirlo est bien obligé de répondre entre 200 et 250 euros en moyenne.
Mensuel.
Donc ça veut dire 6 fois moins que le SMIC, qui n'est déjà pas très élevé. Top, lui, tout de suite, il interrompt, il dit de toute façon, c'est de l'esclavage et on n'humanise pas un cimetière. Pierre Ripert lui demande, est-ce que vous savez ce que sont les QMC ou les QLP? Alors pour ceux qui ne savent pas, les QMC ou QLP, c'est les mêmes choses, ça dépend des prisons. Des fois on les appelle comme quartier maison centrale ou quartier longue peine, Aréo, ou selon qu'on est Aréo ou Anelin. Mais c'est les mêmes structures. Le diallo ne répond pas, il dit rien. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas à Moulins, donc il ne répond pas. Ripert lui pose une autre question, lui demande si la prison n'est pas une violence elle-même, en elle-même physiologique, physique. Et le diallo ne fait sans doute pas bien comprendre la question, il dit « Ah oui, ça c'est vrai, il y a de la violence entre les détenus. C'est la seule violence qui va. » Et là, Baheb revient donc encore une fois sur l'histoire de son père et de sa mise au mitard. Et là, il lui dit « Et dire que vous osez penser que vous êtes un homme de cœur. »
Parce qu'en gros, il a été mis au mitard après l'annonce et la découverte que son père était mort. Et il est au mitard après ça.
En fait, après, il apprend ça, il fait des tentatives de suicide et comme réponse, il est mis au mitard.
Voilà. Puis ensuite, donc c'est la fin de la matinée. L'impression que ce directeur-là, il laisse, c'est effectivement une espèce de gros baratin. De gros baratineur qui a l'air de faire tout ce qu'il peut, mais qui finalement il ne peut pas grand chose, que les choses sont lentes, que lui reste traumatisé. On arrive à l'après-midi et c'est l'audition donc de André Cavalla, qui est l'actuel directeur du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet. Alors lui, on le dit en résumé, il va passer tout de suite encore plus que son collègue comme l'homme de la modernisation, celui de la modernisation dans lequel il veut associer les prisonniers.
Là, on est d'ailleurs socialement, on est dans une autre histoire.
Ouais,
c'est plutôt un haut fonctionnaire catholique, bourgeois.
De gauche. Il s'inscrit dans la lignée Badinter, ouais. Parce qu'il va présenter les changements de 80, etc. Mais il n'a pas de chance, il se trouve qu'on connaît quelqu'un qui sort de son établissement et que, en fait, visiblement, il est aussi sécuritaire que n'importe quel, aussi répressif que n'importe quel autre directeur de prison, qui gère ça de façon extrêmement précise et qui interdit des activités à telle personne parce qu'il y a tel papier, tel regroupement, enfin, etc. Donc il donne beaucoup de leçons par la parole, mais dans les faits, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça nous rappelle un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, surtout leur gros délire sur l'humanisation et les transformations des prisons et de la justice. Donc lui, par exemple, il dit « Quand on m'a prévenu, j'étais chez moi et ma première pensée, ça a été communiquer. J'aurais voulu parler avec Alach, que j'avais déjà rencontré quand il est arrivé, pour définir son parcours de réinsertion. Quand je suis arrivé à Moulins, j'ai demandé à Schwerz de reculer. Et à ce moment précis, la porte devant laquelle nous étions a explosé. Moi, je me suis fait des petites blessures au cou suite à cette explosion. Et je sais, à ce moment, qu'il n'y a plus de porte fermée. C'est moi qui ai demandé à Schwerz de tirer au plafond, comme tir de sommation. Bon, il couvre son sbire pour faire reculer les détenus qui allaient s'évader. Je pensais qu'il y avait plein de détenus parce que je savais qu'il y en avait quand même pas mal dans le parloir était plein, donc lui... Sa grosse inquiétude, c'est qu'il y a une évasion collective. Tout le monde en profite pour se barrer. Et sa deuxième préoccupation, ça a été de gagner du temps pour que la police, les flics arrivent. Et elle n'a pas compris pourquoi, elle n'a toujours pas compris pourquoi les flics n'étaient pas arrivés plus vite. Qu'ils encerclent la prison et que comme ça, les autres ne puissent pas s'en aller. Donc il a demandé à Fénaillon d'ouvrir les portes. Pensant que les gendarmes allaient être là à ce moment-là.
Son collègue lui a dit c'est bon.
Voilà, c'est ça. Et lui, il a cru que c'est bon, ça voulait dire ça y est, les flics sont là, donc on peut ouvrir les portes. Donc ça remet quand même un petit peu les choses en place. Hein. J'imagine l'état des deux surveillants avec les deux, là, avec les condés dehors qui commencent à tirer. Enfin, ça aurait été joli. Alors, ensuite, donc, viennent les questions au président, et on lui demande « Avait-on bien fouillé Nadia Kabouche ?» Ça, c'est le président qui demande. Et lui, il dit « Il était strictement interdit de fouiller les familles à ce moment. Les agents ont bien fait leur travail. Il couvre tout, lui. Hein? » Bon, il y a pu y avoir une négligence, mais c'est dû à la routine, et ces négligences-là, c'est de l'humain, ça fait partie de la vie professionnelle. Et les avocats sont mis donc à poser des questions sur l'humanisation de la prison. Alors lui, voilà, lui, il développe. Moi, je me suis dit d'abord, toujours, qu'est-ce que vont faire ces personnes? Les maisons centrales, c'est un lieu de sécurité pour la société. Les personnes qui arrivent, moi, j'essaie de leur donner un parcours de vie. C'est vrai qu'il s'y passe des choses innommables, mais il y a des éducateurs, du travail, des activités. Je serais très heureux s'ils gagnaient le SMIG. Mais aujourd'hui, il y a déjà des progrès. Je suis rentré très tôt dans la pénitentiaire, j'ai 57 ans, et j'aurais du mal à me dire, à quelques années de la retraite, que je me suis trompé toute ma vie. Et quand même, il dit, malheureusement pour moi, j'ai choisi ce métier très tôt. Et on lui demande, comme Réfère lui demande, comme à tout le monde, hein, mais quand même, et vous, pourquoi vous êtes porté partie civile? Parce qu'il n'était pas là, il a rien, enfin, il était là, mais enfin, il était très très loin de l'action. Il dit, c'est vrai que j'ai jamais porté plainte de ma vie, mais là, il y a une souffrance.
Et c'est pas la mienne, c'est celle de tous les prisonniers. Exactement. Parce qu'il est dans un truc très paternaliste. Des prisonniers, je dis les prisonniers, mais c'est vrai qu'il inclut les prisonniers, évidemment, c'est les surveillants auxquels il pense, mais il pense aussi aux prisonniers. Il est dans un truc hyper paternaliste. Immonde.
Et donc là, les avocats généraux, le gang bicéphale, revient sur ça, super intéressant, histoire qu'on puisse pas critiquer la condition carcérale aujourd'hui, sur l'évolution des conditions de détention depuis 76. Alors lui, il y va. En 76, il y a eu beaucoup d'évolutions. En 76, il y avait encore des tinettes, les seaux où on faisait ses besoins. Les personnes détenues étaient séparées. Tout le monde portait, tous les détenus portaient un uniforme, drogués. Le mitard était un véritable cachot. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de douches. Avant, il y en avait une pour 120 personnes. Dans les années 70, on écrivait au directeur et parfois, rarement, on avait une réponse. Mais aujourd'hui, l'approche avec le détenu est différente. Pourtant, peut-être qu'il y avait des échanges avant qu'on a perdu aujourd'hui. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir cette petite nostalgie-là. C'est vrai, il y avait très peu d'activités et quand on entend, il y a eu une modernisation. Avant, il n'y avait pas de télé. Il y a eu des très grands changements en 81. La télévision a amené un autre regard du détenu et du surveillant. Mais aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser parce que les détenus sont tellement devant la télé qu'il n'y a plus de communication. Il y a 20 ans en arrière, finalement, peut-être on faisait plus de choses. Dans les années 80, il y avait des réunions pour décider de ce qu'on avait fait avec les détenus. Je me souviens qu'à Saint-Joseph à Lyon, il y avait un journal fait par les détenus, L'Écrou. J'ai rencontré là-bas un prisonnier qui est devenu un peintre très connu, dit Yoshua Mizo. Voilà, enfin il fait un espèce de baratin où il mélange plein de trucs sur des cas, mais qu'ils ont vraiment des cas, c'est un pour je sais pas combien, pour 20 000, et c'est un exemple d'une prison, c'est pas du tout lui qui a fait ça, qui a fait que ces choses-là étaient possibles. Dans cette prison, cette expérience a duré très peu de temps, parce que rapidement, quand on s'est rendu compte de ce qui se passait dans la prison Saint-Joseph, et ben, l'administration pénitentiaire, la direction a mis le voilà tout de suite. Et là, maintenant, donc, lui, il dit, mais...
Mais il fait mine aussi de découvrir, par exemple, au passage, que la télévision... Alors, d'une part, il y a deux choses, quand même, sur la télévision à dire, au passage, quand même. Hein, elle a été introduite parce que, à la suite de lutte de prisonniers aussi, pour qu'il y ait des jeux, comme il se passe à l'extérieur, qu'ils aient la télévision aussi à l'intérieur. Mais l'administration pénitentiaire Grand Prince, à l'époque, a fait ça aussi, déjà, pour calmer la détention. Et on sait très bien quel est effectivement, le but qu'ils découvrent aujourd'hui... En faisant le faux naïf, que effectivement la télévision calmerait la détention et ferait qu'il y aurait moins de contact entre les gens. En gros, ils découvrent le fait que la télévision atomise les prisonniers comme à l'extérieur, à l'intérieur de la détention, comme si l'administration pénitentiaire avait à s'en plaindre. Voilà.
Et là, il met tous ses espoirs sur la nouvelle conception des prisons dans son aspect de partenariat avec le privé, hein, dans ce mélange public-privé depuis les années 90, qui et qu'aujourd'hui, évidemment, ça va être de plus en plus précis. Et lui, pour lui, c'est très intéressant, ça va permettre de vraiment moderniser les prisons, même si elles restent toujours des prisons. Il rappelle quand même toujours aussi qu'il n'est qu'un fonctionnaire, et que si un jour il n'y a plus de prison, et ben, il n'y en aura plus. Mais pour l'instant, il y en a. Alors il faut faire encore plus d'efforts pour qu'il y ait une vraie modernité.
Là, il y a l'avocate de Christophe qui lui dit, arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Comment on peut insérer une personne qui a pris 40 ans de prison, juste, voilà, rappeler le truc comme ça. Et il répond, sur 40 ans, c'est vrai que c'est compliqué. Il faudrait parler de moment de vie.
Voilà, n'importe quoi, la langue de bois pure. Voilà. Fur.
qui rappelle la langue de bois de Christiane Taubira aujourd'hui.
Exactement. Et Ripper, lui aussi, il lui fait descendre un peu. Elle a dit, vous parlez de modernisation, c'est vachement, c'est bien, mais vous oubliez par exemple l'état des baumettes. Elle dit, oui, mais j'espère que ça, c'est bientôt fini. Et Ripper lui dit, pour les maisons centrales, n'y a-t-il pas de souffrance chez les détenus et leurs familles? Par exemple, dans les parloirs, qu'est-ce qui se passe quand les familles arrivent en retard de 5 minutes, hein, et qu'elles ne peuvent pas rentrer? Et là, vous ne voyez pas de la souffrance? Oui, il existe de la souffrance, lui répond dans le cadre des règles. Moi, je fais appliquer les règles, je ne juge pas les règles. Hein, du genre, c'est jamais, personne n'est responsable de rien du tout. Il existe un mal-être, c'est sûr, et de la souffrance, c'est sûr aussi. Et là, il y va de sa grande phrase. La privation de liberté, c'est terrible, c'est le pire. Mais du jour, enfin, c'est-à-dire, il arrive à dire tout et son contraire. Exactement comme ce qu'on entend encore une fois aujourd'hui. C'est vraiment le discours de la gauche quand elle parle des mêmes outils. Et ils arrivent à dire oui, c'est horrible, mais voilà, mais il faut aménager le. On va aménager l'horrible, vous inquiétez pas. Et Ripper demande, et les suicides? Il y en a trop. Tout ce qui est fait par le personnel, c'est pour éviter la mort. Non, alors, et bien sûr, on a vu dans les derniers temps que c'était avec des cas précis que tu penses que les gens, ils continuent à les laisser craver dans les prisons, ils n'ont rien à foutre. Et il dit à Ripper, quand même, nos regards divergent, hein, mais j'espère sincèrement qu'ils se retrouveront un jour. Pour moi, les prisons ne sont pas des mouroirs, on peut avancer ensemble, il propose à Ripper. Et Ripper lui dit, la prison, c'est la mort, la prison, c'est pas la vie. Et là, il y a Christophe qui intervient. Il dit un truc assez résumé. Il dit, on a quelque chose en commun. On est naïfs tous les deux. Mais là, bien sûr, c'est pas sur la même naïveté. C'est bien évidemment. Il lui dit, mais la prison que vous décrivez, moi, je l'ai jamais vue. Et il lui dit, quand on arrive dans un endroit qui sent mauvais, hein, au début, on sent cette mauvaise odeur. Hein. Ça sent mauvais un certain nombre de temps. Et puis ensuite, on s'habitue, on ne sent plus. Pourtant, ça sent encore mauvais. Et vous, vous êtes dans cette situation. Mais est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Et là, lui, et Christophe, il précise en disant ça, il dit que lui, c'est toujours, parce qu'il a celui la vit quotidiennement cette odeur, il dit, je partirai avant de mourir, ma seule perspective, c'est l'évasion. Et Top, lui, il lui dit un mot aussi, il lui dit, monsieur, vous êtes peut-être humain, mais vous travaillez pour un système inhumain. La prison, ça sent le cimetière. Voilà. Alors, ça, on va s'arrêter donc sur l'audition de ce deuxième directeur pour cette journée du vendredi. Même si cette même journée a commencé l'audition des témoins qui ont été pris en otage avec leur bagnole, ou des fois pas pris en otage, juste leur voiture volée. Mais ça, on va se le réserver, on regroupera ça dans les journées qui vont suivre. Parce que là, du coup, on attaque un autre aspect, c'est vraiment celui de la victime. Et c'est aussi des gros morceaux d'anthologie sur la notion de victime. Mais ça, pour ça, on vous donne rendez-vous pour les journées suivantes.
Par ailleurs, petite annonce quand même. Vous pouvez toujours passer pour ceux qui sont à Lyon. Hein, c'est tous les matins à 9h. Voilà.
Sauf lundi matin prochain. Donc, s'il a précisé le président.
C'est à la cour d'assises de Lyon, dans l'ancien palais, le palais historique de justice, là, à la grande marche sur le quai. Voilà, c'est accessible avec une carte d'identité, parce que à l'entrée, on le répète, ils prennent une carte d'identité juste comme ça pour pouvoir faire partir certaines personnes quand ils le décident.
Et ça fait toujours du bien quand il y a des gens dans la salle, parce que la salle est quand même remplie de matons et de directeurs de prison et de flics, donc c'est toujours bien un peu de changer l'ambiance.